Radio Republik Indonesia, Service Internasional, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio Republik Indonesia, Service Internasional, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Bonjour à tous, vous allez bien? J'espère que vous êtes toujours en bonne santé et que vous êtes toujours fidèles à notre émission quotidienne de la Voix de l'Indonésie en langue française. Comme d'habitude, nous allons commencer ce programme par le journal, suivi de commentaires. L'arbre suivant, l'histoire aujourd'hui et la mise au point. Vous pouvez également écouter notre programme magazine culturel, apprendre l'indonésien et des chansons. Voilà notre programme pour ce soir. Écoutons maintenant le journal suivi de commentaires.
La Voix de l'Indonésie, les informations.
Bonsoir, chers amis, merci d'écouter La Voix de l'Indonésie, diffusée depuis Jakarta. Voici le journal et on commence avec les titres. L'Indonésie cible le plus grand pays de l'économie numérique. Yogyakarta mérite d'être désignée comme une ville de patrimoine mondial. On espère les enseignants peuvent devenir les ambassadeurs anticorruption de la Commission pour l'éradication de la corruption ou KPK. Pencaksilat, première mise en scène au bâtiment de l'UNESCO. Chérémy nous présente maintenant le journal complet. Le gouvernement cible l'Indonésie d'être un pays avec la plus grande économie numérique en Asie du Sud-Est en 2020 pour encourager l'expansion de l'accès numérique dans toutes les régions indonésiennes. Le gouvernement continue d'encourager la numérisation de la société avec des services numériques qui est de plus en plus répandu dans toute l'Indonésie. Cela a été dit par le ministre des Communications et de l'Information, M. Rudiantara, après l'ouverture de l'activité numérique en cours d'exécution pour l'innovation et le marché numérique à Jakarta le dimanche. Il espère que la communauté sera en mesure de profiter des avantages de numérique en conformité avec la cible du gouvernement. Le ministre Rudiantara croit l'élargissement de l'accès et l'utilisation des applications numériques peuvent plus contribuer de manière significative au développement économique de l'Indonésie sous la forme de la croissance des industries créatives. Le gouverneur de Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X, a déclaré que la ville de Yogyakarta a la peine d'être ville du patrimoine mondial en raison de sa richesse culturelle et des concepts philosophiques élevés comme la base de la formation de la ville. Le concept de la philosophie du Palais Yogyakarta comprend Tugu Golong Gilik ou Pal Putih Keraton Panggung Krapyak. Cela a été déclaré par le sultan dans un discours lu par le vice-gouverneur de Yogyakarta, Paku Alam X, dans la socialisation de Yogyakarta comme la ville de la philosophie et le plan de la nomination Yogyakarta comme la ville du patrimoine culturel mondial à Monument Serangan Umum en mars Yogyakarta le dimanche. Selon Sultan, pour être proposé pour devenir une ville de patrimoine mondial, Yogyakarta répond aux critères établis par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture ou l'UNESCO. Il a expliqué que la valeur philosophique Krapyak du Nord, pour symboliser le voyage humain de la naissance à l'âge adulte, marié et avoir des enfants, et Tugu Golong Gilik vers le Sud symbolise le voyage de la vie humaine de se tourner vers Dieu. Le vice-président de la Commission pour l'éradication de la corruption, l'ODM Sharif, souhaite que les enseignants et les éducateurs puissent devenir les ambassadeurs de lutte contre la corruption. KPK invite les enseignants à enseigner la question pour lutter contre la corruption. Il a été déclaré par l'ODM Sharif à l'ouverture des activités. L'enseignant a écrit anti-corruption à Nusa Dua, Bali. Récemment, selon lui, un enseignant peut influencer beaucoup de gens. Ainsi, l'éducation anticorruption par les enseignants serait très bénéfique et stratégique. Dans ce cas, on a demandé aux enseignants stagiaires de faire un rapport sur la valeur des travaux de lutte contre la corruption pour soutenir le mouvement anticorruption dans le pays. Pencak silat l'art martial traditionnel de l'Indonésie qui a été déclaré l'un des objets du patrimoine culturel national pour la première fois est mis en scène à l'UNESCO à propos de l'activité ASPAC au siège du quartier général de l'UNESCO à Paris. L'ambassadeur qui est également vice-délégation permanente de l'Indonésie auprès de l'UNESCO, T.A. Fauzi Suleiman à Londres, a déclaré lundi que l'Indonésie participe activement à l'activité en soirée ASPAC par des spectacles de pencak silat et gastronomie indonésienne. L'ambassadeur Fauzi Suleiman a aussi déclaré que l'Indonésie, avec des performances artistiques de pencak silat, est représentée par le groupe d'art Martio de l'ambassade d'Indonésie à Paris. Cet spectacle d'art Martio est un coïncide avec l'adoption des arts martiaux par le ministère de l'Éducation et de la Culture de l'Indonésie comme l'un des 150 objets du patrimoine culturel national le 27 octobre. Selon lui, cette désignation est une étape importante vers la nomination des arts martiaux pencak silat comme patrimoine culturel mondial, l'UNESCO non-objet. Chers amis, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Bonsoir, chers amis, merci d'écouter la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Voici le commentaire intitulé « Le rôle des jeunes Indonésiens dans l'histoire de la nation ». Les jeunes sont un actif de la nation. Ils sont l'avenir d'une nation. Ils ont leur rôle dans l'histoire de la nation indonésienne. La renaissance des jeunes indonésiens ont été commencée en 1908 lorsque le Budi Utomo, la première organisation de la jeunesse indonésienne. La fondation de Budi Utomo est le début d'un mouvement qui vise à atteindre l'indépendance de l'Indonésie. Initialement, cette organisation est destinée aux jeunes japonais éduqués. Après le Budi Utomo, certaines organisations de jeunes ont commencé à émerger, tels que Jong Java ou la jeunesse javanaise, Jong Sumatranen Bond ou les jeunes de Sumatra, l'Association des étudiants indonésiens et l'Association indonésienne. Le point culminant est la convocation du premier congrès de la jeunesse en 1926 et le deuxième congrès de la jeunesse en 1928, qui a abouti l'engagement de la jeunesse connu sous le serment de la jeunesse. En 1945, les jeunes ont insisté Soekarno et Muhammad Hatta de proclamer l'indépendance indonésienne immédiatement après avoir entendu les nouvelles de la capitulation du Japon en août 1945. Après l'indépendance, le rôle de la jeunesse indonésienne est très important. Beaucoup de jeunes indonésiens ont des prestations dans divers domaines et connus à l'étranger. Le progrès technologique rend les jeunes indonésiens aux yeux un rôle plus important que les jeunes de l'époque avant l'indépendance qui ont beaucoup de limites. La disponibilité des installations ne fait pas les jeunes en Indonésie par aux yeux et complaisants. Le progrès technologique, la disponibilité des fonds et des équipements ont fait les jeunes indonésiens plus avancés et motivés à faire beaucoup pour le pays et la nation. C'était le commentaire de la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.iv.
Bonsoir à tous, vous écoutez La Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Et voici l'histoire d'aujourd'hui. Le 31 octobre 1922, Benito Mussolini devient le plus jeune premier ministre dans l'histoire de l'Italie. En 1922, le leader du mouvement fasciste italien, Benito Mussolini, devenu le premier ministre de l'Italie par un coup d'État. Il est né le 29 juillet 1883, le plus jeune premier ministre de l'histoire italienne, au pouvoir à l'âge de 49 ans. Le premier mouvement après au pouvoir, il a attaqué l'Éthiopie. Lorsque les Alliés ont attaqué l'Italie en 1943, la dictature de Mussolini s'est effondrée. Il a été exécuté par ses adversaires politiques le 28 avril 1945 à Dongo sur le lac de Com. Le 31 octobre 1984, le premier ministre de l'Inde, Madame Indira Gandhi, a été assassinée par deux gardes de sécurité Sikh. Indira Gandhi est la première femme premier ministre en Inde et une des premières femmes chefs d'État au monde pour la période de 19 janvier 1966 jusqu'au 24 mars 1977. Et a continué le 14 janvier 1980 jusqu'à elle a été assassinée le 31 octobre 1984. Elle a été la première femme à devenir premier ministre de l'Inde. Indira Gandhi a été tuée le 31 octobre 1984. L'action a été déclenchée par l'instruction qui a été ordonnée aux troupes d'assaut le temple d'or au Punjab, le siège de discipline Sikh qui voulait Punjab comme leur pays. Le 31 octobre 2003, le premier ministre de la Malaisie, Mahathir Mohamad, a démissionné après 22 ans au pouvoir. Mahathir Mohamad a commencé ses activités politiques en 1945. Il était élu pour la première fois comme membre du Parlement en 1964. Avant d'occuper le poste de Premier ministre, il a été successivement ministre de l'Éducation, vice-premier ministre en 1976, ministre du Commerce et de l'Industrie en 1978 et a dirigé plusieurs missions à l'étranger pour attirer les investisseurs. Mahathir a été le quatrième Premier ministre malien de 1981 jusqu'à 2003. Après 22 ans au pouvoir, il a été remplacé par Datuk Sri Abdullah Ahmad Badawi. C'était l'histoire aujourd'hui de la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Mise au point sur les infos et événements quotidiens.
Bonsoir, chers amis. Merci d'écouter la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici la mise au point intitulée « La facilité de faire des affaires en Indonésie augmente 15 notes ». La Banque mondiale, dans son dernier rapport annuel Doing Business, a annoncé l'Indonésie a réussi à enregistrer en faisant 7 efforts de réforme dans les dernières années. Dans le rapport Doing Business 2017, l'égalité des chances pour tous, lancé mardi à Washington 25 octobre, l'Indonésie est compris dans les 10 pays qui ont atteint la plus haute amélioration. Dans le classement mondial, l'Indonésie a augmenté 15 positions à la 91e position cette année. En 2015, l'Indonésie était dans le niveau 106. La réforme des affaires est faite en Indonésie dans une dernière année mesurée par Doing Business et établir une entreprise, la facilité d'avoir le raccordement électrique, l'enregistrement de la propriété, la facilité d'avoir le prêt, payer des impôts, le commerce transfrontalier et l'exécution du contrat. Le rapport de www.worldbank.org, le directeur de représentant de la Banque mondiale pour l'Indonésie, Rodrigo Chavez, a déclaré que le gouvernement indonésien a beaucoup fait pour améliorer la qualité de l'environnement des affaires pour le secteur privé, notamment au cours des trois dernières années. Selon lui, la communauté des affaires mondiales et les entrepreneurs locaux seront encouragés par la facilité dans le processus de faire des affaires dans divers secteurs. Répondant à la réalisation de l'augmentation de niveau, le chef du Conseil de coordination des investissements au BKPM, M. Thomas Lembong, a déclaré « La flambée des évaluations réalisées par l'Indonésie est la plus grande dans l'histoire de l'indice de facilité de faire des affaires. » Selon lui, il n'y a jamais précédemment une poussée jusqu'à 15 points en un an. Thomas Lembong a expliqué que le président Joko Widodo n'était pas satisfait de la hausse dans le classement et il a demandé à BKPM d'améliorer encore la performance de sorte que ses évaluations continuent d'augmenter de manière significative, au même niveau que d'autres grands pays. Selon Thomas Lembong, le gouvernement a également continué de promouvoir le développement de l'investissement afin de stimuler l'économie dans les zones à l'Indonésie. Il a déclaré l'égalisation d'investissement à un nombre de régions devient l'une des missions du gouvernement afin que les gens aux régions se sentent le développement économique. Je vois que le développement des investissements dans les zones en dehors de Java est encore au stade initial. Il est encore au début. Je les vois des signes qu'il a commencé à y arriver, mais le nombre de bases est encore relativement faible, bien que la croissance puisse être des dizaines pour cent ou 100%. Le nombre absolu est encore faible. Des exemples de signes, le développement d'investissement commence à Manado, Sulawesi du Nord. Ensuite, Thomas a expliqué que la réalisation de l'investissement en Indonésie de janvier jusqu'à septembre 2016 a atteint 453,4 trillions rupiah et a augmenté 13,4% par rapport à la période de janvier jusqu'à septembre 2015. D'autre part, la réalisation de l'investissement étranger augmente 10,6% ou 295,2 trillions rupiah. Il a dit que l'augmentation des investissements de janvier jusqu'à septembre 2016 a eu un impact positif sur l'augmentation de l'absorption de l'emploi d'un montant de 960,041 personnes. L'annonce de presse de BKPM a révélé la réalisation de l'investissement étranger de 5 plus grands pays est en provenance de Singapour avec la valeur de 2,2 milliards de dollars américains, le Japon 1,6 milliards de dollars américains, la République de la Chine populaire 0,6 milliards de dollars américains et les îles Vierges britanniques et le Pays-Bas, chacun 0,5 milliard de dollars américains. Chers amis, c'était la mise au point de la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Le gouvernement cible l'Indonésie d'être un pays avec la plus grande économie numérique en Asie du Sud-Est en 2020 pour encourager l'expansion de l'accès numérique dans toutes les régions indonésiennes. Le gouvernement continue d'encourager la numérisation de la société avec des services numériques qui est de plus en plus répandu dans toute l'Indonésie. Cela a été dit par le ministre des Communications et de l'Information, M. Rudiantara, après l'ouverture de l'activité numérique en cours d'exécution pour l'innovation et le marché numérique à Jakarta le dimanche. Il espère que la communauté sera en mesure de profiter des avantages de numérique en conformité avec la cible du gouvernement. Le ministre Rudiantara croit l'élargissement de l'accès et l'utilisation des applications numériques peuvent plus contribuer de manière significative au développement économique de l'Indonésie sous la forme de la croissance des industries créatives. Le gouverneur de Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X, a déclaré que la ville de Yogyakarta la peine d'être ville du patrimoine mondial en raison de sa richesse culturelle et des concepts philosophiques élevés comme la base de la formation de la ville. Le concept de la philosophie du palais Yogyakarta comprend Tugu Golong Gilik au Pal Putih Kraton Panggung Krapyak. Cela a été déclaré par le sultan dans un discours lu par le vice-gouverneur de Yogyakarta, Paku Alam X, dans la socialisation de Yogyakarta comme la ville de la philosophie et le plan de la nomination Yogyakarta comme la ville du patrimoine culturel mondial à Monument Serangan Umum en mars Yogyakarta le dimanche. Selon sultan, pour être proposé pour devenir une ville de patrimoine mondial, Yogyakarta répond aux critères établis par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture ou l'UNESCO. Il a expliqué que la valeur philosophique Krapyak du Nord, pour symboliser le voyage humain de la naissance à l'âge adulte, marié et avoir des enfants, et Tugu Golong Gilik vers le sud symbolise le voyage de la vie humaine de se tourner vers Dieu. Le vice-président de la Commission pour l'éradication de la corruption, l'ODM Sharif, souhaite que les enseignants et les éducateurs puissent devenir les ambassadeurs de lutte contre la corruption. KPK invite les enseignants à enseigner la question pour lutter contre la corruption. Il a été déclaré par l'ODM Sharif à l'ouverture des activités. L'enseignant a écrit « Anticorruption » à Nusa Dua, Bali, récemment. Selon lui, un enseignant peut influencer beaucoup de gens. Ainsi, l'éducation anticorruption par les enseignants serait très bénéfique et stratégique. Dans ce cas, on a demandé aux enseignants stagiaires de faire un rapport sur la valeur des travaux de lutte contre la corruption pour soutenir le mouvement anticorruption dans le pays. Pencak silat l'art martial traditionnel de l'Indonésie qui a été déclaré l'un des objets du patrimoine culturel national pour la première fois est mis en scène à l'UNESCO à propos de l'activité ASPAC au siège du quartier général de l'UNESCO à Paris. L'ambassadeur qui est également vice-délégation permanente de l'Indonésie auprès de l'UNESCO, T.A. Fauzi Sulaiman à Londres, a déclaré lundi que l'Indonésie participe activement à l'activité en soirée ASPAC par des spectacles de pencak silat et gastronomie indonésienne. L'ambassadeur Fauzi Sulaiman a aussi déclaré que l'Indonésie, avec des performances artistiques de pencak silat, est représentée par le groupe d'art Martio de l'ambassade d'Indonésie à Paris. Cet spectacle d'art martio est en coïncide avec l'adoption des arts martio par le ministère de l'Éducation et de la Culture de l'Indonésie comme l'un des 150 objets du patrimoine culturel national le 27 octobre. Selon lui, cette désignation est une étape importante vers la nomination des arts martio pencak silat comme patrimoine culturel mondial, l'UNESCO. Non objet. Chers amis, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par internet sur le site www.voi.co.id.
Bonsoir auditeurs et auditrices, vous êtes à l'écoute de la Voix d'Indonésie à Jakarta. Je vous propose ce soir, un programme magazine culturel. Nous avons le titre pour aujourd'hui, Parang Salawaku.
Écoutez des informations et les arts et cultures indonésiens dans le programme quotidien Tout de beauté en Indonésie.
Chers amis, bonsoir. Nous continuons notre émission ce soir avec le magazine culturel. Aujourd'hui, nous vous introduisons une âme traditionnelle d'une province à l'est d'Indonésie. Donc, restez toujours avec nous, le service mondial de Radio République Indonésia, la voix de l'Indonésie. L'Indonésie est très riche avec divers arts et cultures, un des produits culturels indonésiens et des armes traditionnelles. Dans le passé, outre d'être utilisées pour un abri contre les attaques de l'ennemi, les armes traditionnelles sont également utilisées dans l'agriculture et les activités de chasse. Plus de ses fonctions, l'arme traditionnelle est devenue l'identité d'une nation qui enrichit aussi la culture de l'archipel. Une des armes traditionnelles indonésiennes sont venues des Moluques, parents Salawaku. Parang Salawaku est une arme traditionnelle de Moluques qui se compose d'une machette, un long couteau et Salawaku, un bouclier, pour combattre au passé. Parang Salawaku existe également dans le symbole du gouvernement de Ambon, la ville, le chef-lieu de la province de la Moluques. Une telle arme classique est en fer forgé le long d'environ 1 mètre. Le manche est réalisé en bois, en métal ou en bois gapusa. Cependant, Salawaku revêtu en noir, puis décoré avec des coquillages. Il y a certains motifs qui symbolisent le courage dans le décor. La forme de Salawaku est élancée. Le haut et le bas sont plus larges que le milieu. La face avant est légèrement incurvée, munie d'une poignée à l'arrière. La couleur noire vise à plaquer Salawaku étant fabriqué de la sève des racines de diverses plantes. Pour les gens de Moluques, Parang et Salawaku est un symbole de l'indépendance du peuple. Lorsque la guerre contre les colonialistes hollandais, le capitaine Patimura et les soldats ont utilisé cette paire d'armes. Maintenant, Parang Salawaku devenir l'un des artisanats typiques de Moluques. En plus d'être la devanture, Parang Salawaku devient un attribut dans la danse Tchakalele. Tchakalele est une danse de guerre traditionnelle de Moluques utilisée pour accueillir les invités ou dans une fête traditionnelle. Parang Salawaku est tenu pour le danseur masculin. Parang se tient dans la main droite, symbolisant le courage, alors que Salawaku dans la main gauche symbolise la lutte pour obtenir la justice. Chers amis, c'était le magazine culturel pour ce soir. Merci d'être fidèles avec nous. À demain.
Et parler l'indonésien, vous pouvez écouter notre programme Aller apprendre l'indonésien.
Bonsoir à tous. Nous continuons notre émission avec la rubrique Apprendre l'indonésien. Un programme qui introduit le vocabulaire de la langue indonésienne qui vous guide de parler indonésien. Le sujet d'aujourd'hui est Rumah Baru, ou en langue française, veut dire nouvelle maison. Tout d'abord, je vais introduire le vocabulaire et les expressions reliant au sujet d'aujourd'hui. Je vais prononcer deux fois et vous pouvez répéter après moi. Rumah baru, nouvelle maison. Kemarin, hier. Pagi, matin. Pergi, aller. Kakak perempuan, sœur. Kakak laki-laki, frère. Pindah, déménager. Kemana, ou, pinggiran, banlieue, suka, aimé, daerah, place, bagus, bon, ramai, bondé, halaman, cour, luas, spacieux, belakang, arrière, pohon mangga, manguier, pohon pepaya, papayer, depan, avant, kebun bunga, jardin de fleurs, kantor, bureau, dekat, proche, stasiun kereta api, gare. Je répète une fois, rumah baru, nouvelle maison. Kemarin, hier. Pagi, matin. Pergi, aller. Kakak perempuan, sœur. Kakak laki-laki, frère. Pindah, déménager. Kemana, où? Pinggiran, banlieue. Suka, aimé. Daerah, place. Bagus, bon. Ramai, bondé. Halaman, cour. Luas, spacieux. Belakang, arrière. Pohon mangga, manguier. Pohon pepaya, papayer. Depan, avant. Kebun bunga, jardin de fleurs. Kantor, bureau. Dekat, proche. Stasiun kereta api, gare. Ensuite, je vais donner un exemple de conversation intitulé « Rumah baru » ou en langue française veut dire « nouvelle maison ». Comme d'habitude, je vais prononcer lentement, phrase par phrase, deux fois. Vous pouvez répéter après moi, c'est une conversation entre Suzanne, A, et Tuti, au bureau. A. Tuti, kemarin pagi, kamu pergi kemana? En français. Tuti, où êtes-vous allé hier matin? Je répète. Tuti, kemarin pagi, kamu pergi kemana? En français, Tuti, où êtes-vous allé hier matin? B. Saya pergi dengan kakak perempuan saya ke rumah kakak laki-laki saya. Dia baru pindah rumah. En français, je suis allé avec ma sœur à la maison de mon frère. Il a récemment déménagé de la maison. Je répète. Saya pergi dengan kakak perempuan saya ke rumah kakak laki-laki saya. Dia baru pindah rumah. En français, je suis allé avec ma sœur à la maison de mon frère. Il a récemment déménagé de la maison. Suzanne, dia pindah ke mana? En français, où il a déménagé? B. Tuti. Dia pindah ke pinggiran Jakarta. En français, il a déménagé au banlieue de Jakarta. Je répète, dia pindah ke mana? En français, où il a déménagé? Dia pindah ke pinggiran Jakarta. En français, il a déménagé au banlieue de Jakarta. Suzanne, apakah kamu suka dengan rumah itu? En français, aimez-vous cette maison? Je répète, apakah kamu suka dengan rumah itu? En français, aimez-vous cette maison? Tuti, saya suka sekali. En français, j'aime beaucoup. Je répète, saya suka sekali. En français, j'aime beaucoup. Daerahnya bagus. Daerahnya bagus. En français, la place est bonne. Tidak begitu ramai. Je répète, tidak begitu ramai. En français, pas très bondé. Halamannya luas. Je répète, halamannya luas. En français, la cour est spacieuse. Di belakang rumah itu ada pohon mangga dan pohon pepaya. En français, à l'arrière de cette maison, il y a le manguier et le papayer. Je répète, di belakang rumah itu ada pohon mangga dan pohon pepaya. en français. À l'arrière de la maison, il y a le manguier et le papayer. Di depan rumahnya ada kebun bunga. En français, avant sa maison, il y a un jardin de fleurs. Di depan rumahnya ada kebun bunga. En français, avant la maison, il y a un jardin de fleurs. Susan, apakah kakak laki-laki kamu suka rumah itu? Je répète, apakah kakak laki-laki kamu suka rumah itu? En français, est-ce que son frère aime cette maison? Je répète, est-ce que ton frère aime cette maison? Tuti, tentu saja. Je répète, tentu saja. En français, bien sûr. Selain tidak jauh dari kantornya, rumah itu juga dekat dengan stasiun kereta api. Je répète, selain tidak jauh dari kantornya, rumah itu juga dekat dengan stasiun kereta api. En français, outre que ce n'est pas loin de son bureau, elle est proche de la gare de train. Chers amis, c'était Apprendre l'indonésien pour ce soir. Je souhaite que ce programme soit utile pour vous qui veulent connaître davantage la langue indonésienne. Rendez-vous demain avec un autre sujet plus intéressant. Merci d'être fidèle avec nous. À demain.
Couleur du son, programme des musiques et des chansons indonésiennes.
Chers amis, la voix de l'Indonésie, où que vous soyez, voici le magazine de musique édition de lundi. Pour ce soir, comme chaque lundi, on vous présente les chansons au rythme de Keroncong avec Didi Kempot. Pour cette chanson, il va présenter le genre de Keroncong, mixé avec la musique traditionnelle javanais. Eh bien, pour commencer notre rencontre, nous allons rencontrer une chanson de Didi Kempot intitulée Sampul Surat.
Datanglah sepucuk surat.
Chers amis, vous venez d'écouter la chanson de Sampul Surat. Elle raconte sur un homme qui attend une lettre de son petit ami. Plus tard, la lettre est arrivée. Mais il est triste et écrasé ses sentiments parce qu'il a reçu seulement une simple enveloppe sans la lettre. Chers auditrices et chers amis, le vrai nom de Didi Kempot est Didi Prasetyo. Il vient de Surakarta ou Solo, Java Central. Il est né le 31 décembre 1966. Didi Kempot est aussi connu comme chanteur de Campursari, c'est-à-dire le chanson traditionnel javanais mixé avec le rythme de dangdut. Cependant, il est également doué de chanter l'autre genre musical, y compris des chansons de rythme croncheon. Vous savez, à la Félix de Solo, c'est aussi la ville natale de maître de croncheon Indonésie, Gesang. Didi Kempot est non seulement connu en Indonésie, mais aussi à l'étranger, comme au Suriname et le Pays-Bas. Quand il était au Suriname, il n'est pas seulement chanté en indonésien, mais aussi en néerlandais. Didi a commencé à être connu au Suriname dans les années de 80. Et son album a ensuite été immédiatement obtenu le prix de meilleur album. Didi Kempot et la chanteuse Waljina sont également populaires au Suriname, parce que la communauté de Java au Suriname a atteint 15% de la population totale dans ce pays. Chers amis, alors nous écoutons une chanson intitulée Sepanjang Jalan Kenangan de Didi Kempot. Bonne écoute.
Mama mia, di dalam
Chers amis, cette chanson est d'origine de chanson pop, mais Didi comporte chanter avec le genre de croncheon. Bien que celle-ci soit l'ancienne chanson, mais cette chanson nostalgique est bien à entendre comme bon souvenir. Cette chanson raconte l'histoire d'un homme qui était venu à la ville où les bons souvenirs ont bien noté. Bien qu'ils aient vécu leur propre vie, mais ces merveilleux souvenirs ne seront jamais oubliés. Chers amis, en tant que chanteur ainsi que compositeur, Didi Kempot essaie toujours d'augmenter le potentiel de toute la région avec la chanson pour les fans comme beauté naturelle, culture et nourriture. Selon Didi, chaque région a un potentiel différent et de distinctif pour promouvoir. De plus, toutes les personnes ne connaissent pas la culture et de l'unicité qui existe dans l'autre région de l'Indonésie. C'est pourquoi la présence de régions c'est très important. Cela est évident dans des chansons telles que Station Balapan ou c'est-à-dire la gare Balapan, Sewu Kuto ou Perawan Kalimantan ou Les Vierges de Borneo. Et bien sûr les autres chansons de Didi Kempot. Il espère que le soutien du gouvernement local ou la municipalité tout facilite les artistes de faire les clips vidéo pour promouvoir la culture régionale à travers la musique. Chers amis, c'était le magazine de musique édition de lundi. Et avant de terminer notre rencontre, écoutez les deux dernières chansons Apa Salah dan Dosaku et Mengapa Harus Jumpa. Merci de votre attention et fidélité. Bonne écoute et au revoir.
Oh,
Vous êtes toujours avec La Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Merci d'être fidèle à notre antenne, la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, vous avez écouté tout à l'heure des chansons indonésiennes. Ainsi se termine l'émission pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure, même fréquence. À bientôt.
Radio République Indonésia, Service international, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésia, Service international, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150 9525 et 11785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écoutez l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Envoyez vos critiques et vos suggestions à notre adresse email info@voi.co.id ou envoyez vos courriers à émission en français de la Voix d'Indonésie de la Radio République Indonésia, Jalan Medan Merdeka Barat 4S5, Jakarta, ou PO Box 1157, Jakarta 1011, Indonésie. Vous pouvez rejoindre au Facebook Voice of Indonesia et Twitter Voi Indonesia. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.